2, 1 à Québec en espérant que vous ayez passé une belle soirée. Ce soir, on parle de chasse et de pêche avec notre ami qui est président, monsieur le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Son nom et prénom, c'est Martin Bourget.
La chronique Chasse-Pêche avec Martin Bourget. Présentée par Mini Propane.
La seule petite bouteille de propane réutilisable et échangeable.
Mini Propane, votre allié écologique pour vos activités de plein air.
Salut!
Salut Marceau, comment ça va?
Ça va très bien, ça va très bien. Hier, j'ai pensé à toi, je riais tout seul. Tu sais, des fois, tu regardes des articles dans les différents médias, tu dis « Ah ben, ils vont me parler de ça, cool, je vais commencer à lire ça » pour finalement me rendre compte que c'est pas pantoute ce que je pensais au départ. C'est une chronique d'une jeune femme qui écrit des papiers assez surprenants des fois dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est la fille de Marcia Pilote qui nous a clairement dit que si des femmes étaient dans le bois et il y avait le choix entre tomber face à face avec un ours qui grogne ou encore un homme, semblerait que les femmes préféreraient beaucoup plus être face à face avec un ours qu'avec un homme, parce que l'ours ne pourrait pas les violer. Écoute, moi au départ, je pensais que c'était une chronique chasse-pêche, pour finalement me rendre compte que c'était carrément de la misandrie. Quelqu'un et quelqu'une qui déteste les hommes, qui ont tous l'impression qu'on est des prédateurs présumés, en fait. Ils nous présument prédateurs. C'est hallucinant, cette chronique-là de Madeleine Pilote-Côté. Puis je me suis dit, tiens, je vais l'envoyer à Bourget parce que je sais qu'on va être capable de faire un peu de millage là-dessus. Tu sais, de vous parler du contenu au complet de la chronique, ça n'a comme pas de bon sens, là. Moi, j'ai juste un truc quand je vais dans le bois, puis je risque de rencontrer des animaux qui peuvent être une problématique. Je le donne depuis que j'étais à la radio, ce truc-là, depuis 2006, puis c'est le meilleur truc qu'on peut avoir. Si vous pensez que vous pouvez rencontrer des ours féroces dans le bois, toujours, toujours amener avec vous quelqu'un qui court moins vite. Comme ça, vous allez toujours vous en sortir.
Puis au pire, s'il fait une jambette. Hein? Un bon croque en jambe bien placé dans ce temps-là, là, c'est le bon temps. Mais tu sais, ah bah boy, comment tu sais, d'un froid dans la vie, on est face à des situations, puis on doit un peu légiférer, puis parler à notre cerveau, puis au centre émotif, à dire, OK, comment j'analyse ça? Parce que malgré que ce soit un article qui est visiblement détourné l'attention pour créer un titre qui est intéressant pour amener des gens à l'écrire, puis là, on tombe très rapidement dans le « l'homme blanc caucasien, c'est un gros écœurant sale », puis etc. C'est dit plus poliment que ça, mais je veux dire, on rentre encore dans cette espèce de cercle-là, puis pour cette raison-là, cet article-là, j'allumais le poêle avec. Je vais te le dire, hein, je me suis fait une bonne attisée ce matin-là, j'allumais le poêle avec. Mais en regardant l'article brûlé...
En regardant l'article brûlé,
puis en passant, il était même pas assez bon pour allumer la tisée. Il a fallu que je prenne d'autres papiers, du bon vieux papier journal pour allumer tellement l'article qui était à ce point. Dans mon estime, tu viens de voir où est-ce qu'il se situe. Là. En regardant l'article brûlé, je sais quand même, il y a quand même quelque chose qu'on peut aller chercher là-dedans. Parce que là, je m'en vais loin dans ma tête, mais on va faire une déclinaison de ce qui est écrit là-dedans. Puis on va parler pas nécessairement de l'homme blanc caucasien strictement, mais on va parler de... On va faire un rapprochement avec ce qui s'est passé dans les dernières années où est-ce qu'on a fait des campagnes de désarmement puis des campagnes de démonstration de la grande folie de l'homme qui voulait avoir des fusils puis des armes, etc. Puis on va se rappeler que dans toute cette hérésie-là qui est en fait... un débat très idéologique et non pas logique. On a prouvé à plusieurs reprises que les armes qui étaient ciblées par les différents amendements et les différents projets de loi n'étaient pas présents dans l'histoire de la criminalité depuis le début de l'histoire, que les Canadiens peuvent avoir des armes à feu, des méchants Canadiens, des malfrats qui vont aller meurtrier des bêtes dans le bois, etc. Puis qu'il y a un équilibre écologique alentour de tout ça. Par contre, il y a une arme, puis là, je m'en reviens à l'article, là. Il y a une arme qui existe au Canada, puis partout ailleurs dans le monde, qui est hautement dangereuse, beaucoup plus que toutes les armes qu'on a voulu réglementer. Et cette arme-là, je m'excuse, messieurs, puis je vais m'inclure là-dedans, parce qu'on est souvent à la base de décisions, d'actes un peu négligés ou d'hommeries ou de surplus testiculaires. Cette arme-là, on va la nommer haut et fort, la plus dangereuse d'entre toutes, selon moi. Elle s'appelle le pénis. Et sur cette gouverne, l'homme est capable d'un délit d'indulgence qui est assez énorme, qu'on peut appeler le complexe de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, et c'est beaucoup plus propre à l'homme qu'à la femme. Puis là je me permets de le dire, parce que l'homme, on a ce besoin-là de... Tu sais, il y en a qui mettent des sous dans des REER. Les hommes, on a besoin de mettre de la virilité dans nos REER, hein, de l'ego dans nos REER personnels. On a besoin de ça, là, par-dessus n'importe quoi. Et en ce nom, c'est là où est-ce que je rejoins un peu l'article, où est-ce que, oui, définitivement, dans la condition féminine, dans la présence des femmes dans la chasse, dans la conservation même de nos écosystèmes, la testostérone est souvent le plus grand ennemi de ces milieux-là, parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup d'hommerie. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Rapportée de la façon que l'article le fait, je trouve que oui, parce que ça fait rien que dépeindre un tableau qui est, à l'inverse, très, très, très féministe, un petit peu trop à l'extrême.
Ben, moi, je l'ai lu comme étant de la misandrie. Tu sais, puis moi, les deux côtés, je les dénonce. Les hommes qui détestent les femmes, je trouve que ça n'a pas de bon sens, autant que les femmes qui détestent les hommes. On a tant à gagner l'un et l'autre. Puis souvent, je rencontre des féministes. Tu sais, c'est à la mode là, d'être féministe là, pour une certaine partie de la population. Puis j'entends de la misandrie à travers leurs propos. Puis je leur dis... Tout ce qui t'entoure a été bâti par l'homme en majorité. Tout ce que tu commandes t'est amené par un homme. Tous les fruits, les légumes que t'as pour la plupart en forte proportion, ça t'a été semé, préparé, cueilli par un homme. Donc on a tous à gagner l'un et l'autre, à travailler ensemble pour faire une belle société évoluer. On a tous nos talents, puis on a toutes nos qualités, puis tous nos défauts. Mais de voir qu'aujourd'hui, les femmes qui se disent féministes ont des comportements ou des communications des fois qui me laissent présager qu'ils détestent les hommes, ça me tue, Martin, autant que quand j'entends un gars qui traite les femmes de vidange, ça me tue aussi. Puis c'est un devoir pour nous autres qui sont situés un peu plus au centre, là. Je pense qu'on est assez équilibrés comme individus, toi et moi, c'est un devoir pour nous autres de dénoncer les deux côtés.
Ben oui. Et là, tu parles de conséquences. Tu sais, il faut être conséquent dans nos demandes. On demande une équité. Si on va voir la définition d'une équité, là, c'est équitable pour tous, là, et dans tous les sens du terme. Donc, si tu demandes une équité de manière intrinsèque dans un champ d'activité XYZ, dans le domaine de l'emploi, par exemple, on veut être traité de la même façon, on veut avoir les mêmes salaires, mais nous autres, les gens, on fait comme, oui, la personne qui fait le même travail dans les mêmes conditions, je ne verrais pas pourquoi elle ne serait pas payée le même montant. Mais c'est là que vient le « mais » souvent. C'est là que vient le « mais », parce que dans différentes réquisitions comme ça, on va réquisitionner, par exemple, avoir l'égalité dans X, Y, Z activité, sauf que quand on arrive au moment de faire l'acte, ou on arrive au moment d'être jugé ou de recevoir une conséquence par rapport à un acte, oui, mais moi, ça prend une conséquence dans cette demande-là. Ouais. Il faut que les bottines suivent les babines. Je comprends que tu veuilles être payé le même prix que ton copain qui fait de la poutine à côté de toi, mais tu ne peux pas refuser de dégraisser la hotte de poêle si tu as le même montant que lui. Ça s'appelle de la conséquence. C'est pas d'être misogyne que de dire ça ou quoi que ce soit. Tu portes une demande, tu dis « je fais le même travail, je veux le même salaire », ben fais-le le même travail. C'est la même chose dans nos activités de chasse et de pêche. Les femmes ont plus que leur place, étaient présentes dans l'histoire de l'humanité comme cueilleuses et comme chasseuses bien avant ce que vous pouvez le penser. Elles ont leur place. Elles sont, pour des raisons qu'elles élaboreront eux-mêmes dans leur prochain podcast, je pense qu'ils font des lives dans pas grand temps justement à ce sujet-là. Elles sont au départ meilleures tireuses que nous autres. Elles sont au départ plus attentionnées dans les gestes qu'elles vont porter en forêt. Donc, elles ont souvent un meilleur résultat que nous autres au départ. Mais là, il y a deux réalités là-dedans. Il y a la femme qui a finalement sa place, mais qui ne doit pas à tout prix s'écarter de l'homme, dans le sens parce que là, tout d'un coup, mais elles se regroupent strictement qu'entre femmes de leur côté dans le bois et ne veulent plus voir d'hommes dans le mélange. Mais il ne faut pas que ça se passe non plus. Je comprends, et je suis même à la base de la mise en place de groupes privés sur Internet, de femmes qui parlent entre elles de chasse, de pêche puis de trappage. Ça, on n'a pas le choix, parce que là, l'arme de laquelle on parlait tantôt, le phallus, le pénis, là, lui, là, il y a une genre de démangeaison incontrôlable quand il tombe sur un forum ou il tombe sur une discussion Facebook où est-ce qu'il y a des femmes, de venir mettre son grain de sel misogyne, bien souvent, puis ça n'en prend rien qu'un dans la gang. Ça n'en prend rien qu'un dans la gang. De venir mettre son grain de sel misogyne, de parler de « Hey, t'es, ouais, tu viens avec nous autres au camp pour faire lave-vaisselle, puis reste chez vous, reste dans tes chaudrons, puis etc. » Ça n'en prend rien qu'un dans la gang. Fait que pour cette raison-là, je suis parfaitement d'accord que des groupes soient analysés pour que les femmes aillent à sacrement de paix. Parce que le champion qui est venu commenter comme ça sur un groupe XYZ, il n'a aucune idée du passé de cette femme-là. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans ça. Il ne sait pas qu'est-ce que ça lui a coûté pour, personnellement, sur le plan émotif, sur le plan intellectuel, pour finalement sortir du garde-robe puis être capable d'être une chasseuse à temps plein puis de faire ses activités. Il peut venir en un petit... En deux, trois petites lignes dans un chat comme ça, il peut venir de la blesser énormément sans même le savoir. Puis pour cette raison-là, oui, on va protéger les groupes de conversation parce que il y a des hommes là, qui passent leur journée à envoyer des photos de certaines parties de leur anatomie à des filles là, au travers de Messenger parce qu'ils les trouvent belles, c'est des chasseuses, donc ils y ont droit. Ça, c'est une chose. Mais dans la vie de tous les jours, lorsqu'on parle d'accès au territoire, lorsqu'on parle d'accès à la ressource, d'accès au plan d'eau, etc., eh bien, ces femmes-là qui demandent une égalité dans notre milieu, qui est la chasse et la pêche, bien, d'un autre côté, doivent comprendre qu'il y a aussi une égalité envers l'homme dans l'accès à ces points d'eau-là, à ces territoires-là, à ces, etc. Donc, si le fait d'avoir des hommes qui se font des clubs de chasse qui n'acceptent pas de femmes n'est pas acceptable dans le milieu, bien, il faut comprendre que l'inverse aussi est vrai. L'inverse aussi est vrai. Maintenant, si on revient à cet article-là pour clore la boucle de cet article-là un peu, là, oui, en le regardant fumer dans le poêle, mais en le regardant boucaner dans le poêle, moi, ça m'a amené toute une autre pensée sur l'excès d'hommerie qu'il y a dans le milieu, mais j'ai rapidement délibéré aussi sur l'excès de femmerie qu'il peut y avoir quand la femme demande une équité, puis qu'au bout de la ligne, bien, l'équité, oui, mais il y a des mais où est donc carniard là-dedans. Puis ça, je veux dire, garochez-moi à roche si vous le voulez, je m'en fous complètement. Mais quand on demande une équité, on devrait être conséquent, on devrait accepter que cette équité-là, ben, elle porte la définition qu'elle a dans le dictionnaire. Pour ce qui est de l'article, pour moi, c'est un prétexte de mettre un beau titre pour faire lire l'article à quiconque tomberait dessus parce qu'on parle d'ours versus des hommes dans le bois. Oh, c'est intéressant. Mais au bout de la ligne, ça n'a même pas été capable d'allumer un tas de bois sec dans mon poêle. Fait que, puis c'est pas mal là que ça se situe dans mon estime comme article.
Bref, en jasant avec des gens autour de moi concernant cet article-là au départ, il était un peu comme moi. Il pensait que les gens voulaient savoir comment agir face à un ours dans le bois. Oui. Et ben, cette émission-là sert à ça, sert à faire de l'éducation sur la chasse et la pêche, puis parfois même ben, les animaux qu'on peut croiser en forêt, il y a des animaux qui sont extrêmement intéressants puis qui ne seront jamais un danger pour notre sécurité. Puis il y en a d'autres que si on n'agit pas bien, ben, ça se peut qu'il y ait des problèmes qui arrivent à ce moment-là. Face à un ours, y a-t-il des attaques d'ours qui sont répertoriées à travers le Canada en grande quantité? Parce que tu sais très souvent, moi dans le bois, j'ai croisé des ours, j'ai croisé un orignal qui t'avait bien fait rire parce qu'au départ, je pense que c'était... attends un peu, c'était quoi donc?
Je pense... un carcajou?
Non, j'ai pas croisé un carcajou, j'ai croisé un lynx, tu m'avais dit. C'est peut-être pas ça que t'as croisé. Mais bref, quand je courais dans le bois, j'étais arrivé comme... Je regardais par terre en courant parce que c'était dans le bois puis je voulais pas me bêcher. Puis à un moment donné, je me suis levé à la tête puis j'avais l'impression que c'était une autre bête, mais... C'était vraiment un orignal qui était en train de manger des feuilles quelconques dans l'arbre. Mais tu sais, je me suis pas senti en danger. L'orignal m'a regardé puis il est reparti entre-temps sans aucun problème. Les ours, je te l'ai dit, j'ai jamais eu de problème avec ça. Il y a une vidéo que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux. Je pense que tu l'as vu passer aussi. Je sais pas si ça se passait au Canada ou dans le nord des États-Unis, mais c'était un individu qui était tombé face à face avec un cougar. Et oui. L'individu essayait de s'éloigner du cougar, puis le cougar le suivait. Pour les gens qui connaissent ça comme toi, ben je me dis, toi, tu devais être pas tant stressé que ça. Le cougar était peut-être juste curieux. Pour moi, Martin, le cougar me suit. Je pense que pour une des premières fois de ma vie, je commence à faire un peu d'angoisse. Là,
mais moi aussi. Mais oui. Oui. Un ours, ben, on va s'entendre, on va catégoriser, bon, on y reviendra, là, mais il n'y a pas juste l'ours noir au Canada. Là, donc, on va relativiser après. Un ours ne me fatigue pas. Il y a, comme dans n'importe quelle espèce espèces animalières, il y a des individus comme chez l'homme, il y a des individus qui sont plus fous que d'autres. Mais tu sais, les attaques d'ours noirs au Québec, bof. Des vieilles femelles en fin de vie, presque plus de dents dans la gueule, on dit gueule dans le cas d'un animal, avec les hormones complètement débalancées, qui grognent en se promenant, puis qui claquent des dents pour faire peur ou quoi que ce soit, pour les dents qui y restent. Ça, oui. Mais attaque proprement dit, au niveau de l'ours noir, c'est rare. Il y en a de répertoriés. Même plus souvent qu'autrement, c'est des ours qui se sont retrouvés coincés, qui ne savent pas quoi faire, qui disent « la trail pour me sauver est par là, le gars est en face de moi, je m'en fous complètement, je passe, puis si le gars réagit, ben, il va se défendre. » Mais des attaques répertoriées, pas tant. Un cougar, et dans le même secteur que les cougars, un grizzly. Là, on est sur d'autres genres de bébites. Là. Un grizzly, là, c'est pas rien qu'intéressé par toi pour manger, c'est intéressé par toi pour marquer son territoire. Alors qu'il ait faim ou pas, si t'es sur son chemin, puis que ça y passe par la tête, il va aller te chercher, il va te séparer en morceaux, il va t'enterrer un petit peu partout sur son territoire, puis il va uriner sur des morceaux de toi pour marquer son territoire. Ça, c'est un petit peu plus fatigant. Je veux dire, des attaques de grizzly, ça, il y en a de répertorié. Un cougar, quand tu commences à te rendre compte que tu es justement à la recherche d'un grizzly ou à la chasse ou au wapiti dans ce secteur-là, puis que tu te rends compte que tu as un cougar qui te suit, là, il faut que tu rentres en mode solution. Parce que si c'est pas toi qui l'a, c'est lui qui va t'avoir. Mais un cougar, c'est honnêtement une des machines à tuer les plus performantes, les plus ingénieuses au Canada. Donc, si on se rend compte qu'on se suit faire un cougar, fortes sont les chances que la meilleure des choses à faire, c'est de tenter de le déjouer, se cacher pour pouvoir abattre la bête qui te suit. Après ça, t'appelles le service de protection de la faune pour qu'ils viennent constater les circonstances, etc. Puis ils vont partir avec la bête si à ce moment-là, tu n'étais pas en loi avec un permis de chasser le cougar. Si tu es en loi et avec un permis de chasser le cougar, ben go for it, défends-toi puis mets-le par terre. Mais ça, c'est quelque chose qui... Moi, Yannick, ce secteur-là du Canada, c'est pas un secteur. Puis vous le savez, là, écoute, on s'en va en Afrique du Sud, là, le 3 mai. Là. Il y a toutes sortes d'affaires là-bas. Là. Il y a des hippopotames, il y a des lions, il y a des léopards, il y a tout ça. Ça me stresse moins que d'aller dans les montagnes au Canada qui sont bourrées de grizzly et de cougars. Ça, c'est moi. Ça, c'est okay. Moi. D'autres vont me dire, t'es fou, c'est pas si pire que ça.
Mais je veux juste être sûr. T'sais, advenant le cas où je m'en vais me promener dans l'Ouest canadien, je suis dans le nord du Canada, puis là, je crois cette bête-là, le fameux cougar. Puis, bon, je recule, il me suit, je sens qu'il est hostile à ma présence, fait que je parle, je lui dis, je suis un être humain, je te veux pas de mal, mais je recule, je m'en vais, je parle fort, je montre que j'ai pas peur de lui, mais en même temps, je veux juste sacrer mon camp, puis il continue de me suivre. Si jamais il m'attaque puis je me défends, j'ai le droit de le tuer, là.
Oui, c'est de la légitime défense. Okay. Au départ, si le cougar a commencé à avancer sur toi, que tu lui parles ou pas, c'est flip un 30 sous, là, c'est les chances que tu as de survie, là. C'est aussi simple que ça.
OK. Mais je vais avec une roche, je fais quoi?
Écoute, ça dépend comment est-ce que tu te fais attaquer. Parce que, en théorie, si tu te fais attaquer, que tu te sautes dessus, tu vas déjà avoir la nuque immobilisée et ses crocs vont déjà être dedans. Parce que c'est sa cible numéro un. C'est la raison pour laquelle les aborigènes se promenaient avec des dessins de visage en arrière de la tête. Il y avait des masques en arrière de la tête avec un pieu et un dessin de visage. Parce que généralement, un cougar attaque de dos. Il y avait un pieu qui dépassait, le cougar qui sautait de l'arbre tombait sur le pieu, parce qu'un cougar, ça attaque. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, si juste dans les parages, qui t'a vu, puis tu l'as vu, fais juste continuer ton petit bonheur de chemin, s'il ne s'en vient pas vers toi. Mais si un cougar rentre en mode tracking sur toi, qui te suit ou qui avance sur toi, là, on commence à décompter. Là.
Mais la pire affaire, c'est-tu de partir à courir, Martin?
Oh oui, ça va chialer plus vite si tu pars à courir. T'es aussi bien... Ben, si tu veux abréger à patente, pars à courir en criant. Là. Mais c'est sûr et certain que la meilleure des choses, tu le dis, c'est de garder un contact vocal. Une forte présence vocale, pas agressive, mais quand même une forte présence vocale. Faut pas que ça sonne comme un Twitter. Faut pas que ça sonne comme un oiseau.
Est-ce que je tire des roches?
Tu peux, c'est sûr. Tu as rendu là tout ce qui est en ton pouvoir. Si tu commences à reculer, puis tu hausses la voix, puis qu'il commence à avancer en s'en venant sur toi, ben là, écoute, c'est le temps d'essayer tout ce que tu peux, de lancer des roches, de prendre une branche, de quoi que ce soit. Mais au départ, la première tentative, c'est sûr et certain qu'on ne l'énervera pas en y tirant quoi de rentre en partant. Parce que si tu y tires de quoi de rentre en partant, c'est comme si tu partais à la course en criant. Tu viens d'abréger tes souffrances. Ça va aller vite. Alors, le premier réflexe, c'est de commencer à se distancer en gardant le contact vocal, en essayant de prendre nos choses puis de se tasser de là. il y a 50 % des chances à ce moment-là que le cougar se désintéresse complètement puis il se tasse de là. Et évidemment, s'il y a d'autres personnes, de se regrouper, ça forme une masse, ça va être beaucoup plus imposant face au cougar. Il va y penser avant d'attaquer beaucoup plus. Tu augmentes énormément tes chances. Mais essentiellement, un cougar qui t'a pris comme proie, qui est en train de te traquer ou qui avance sur toi, il y a des fortes chances qu'il attaque le cougar. Okay. Des fortes chances. On a tous vu des vidéos là, de cyclistes qui se promènent, puis le cougar, ils sont à full pin, puis le cougar, il rattrape, puis il les met sur le côté, puis tu as d'autres personnes qui interviennent, puis qui finissent à débarrasser le cougar de là. Mais évidemment, c'est au plus vite, que ce soit des roches ou ce que tu as sous la main, tu tentes de te défendre, mais c'est une bête qui est excessivement. Comme le grizzly, ça laisse pas grand chance.
Puis on va avec les yeux, on essaye, on essaye le plus possible les endroits où ils sont sensibles. Mettons, il est en train de mordre le bras, j'essaie d'y mettre un pouce dans l'œil.
Probablement, c'est ce que je ferais, mais tu sais, rendu là, il n'y a pas grand conseil qui tienne, dans le sens que ça dépend tellement. Il ne te mordra pas le bras. Et à moins de vraiment juste vouloir te ralentir, là, assez rapidement, il va monter les crocs à la nuque. Là. Très, très, très rapidement. C'est rapide. Si il y a des gens alentour, c'est sûr que les yeux, la tête, la trachée, c'est toujours les points principaux, mais...
Ça marche, ton affaire, je suis dans le bureau à Le Bourgneuf, dans un studio de radio, puis je stresse qu'un cougar me saute dessus juste parce que tu me mentionnes toutes ces affaires-là. Fait que si tu te posais les questions à savoir si t'es un bon raconteur d'histoire puis un bon éducateur d'attaque de cougar, t'es mon meilleur, je peux te le dire.
Ce serait juste dur de se faire un scénario dans lequel, OK, je vais y mettre le pouce. C'est comme au karaté, là, quand un gars dit, OK, on va faire Sweeping Tiger, OK, on va faire Eloding the Flow, OK, on va faire... Ouais. On va caler des formes. Là, tu arrives dans la rue, tu fais comme « Attends, là, mon prof m'a dit que tu étais supposé m'attaquer avec un uppercut, là, ça marche pas, là, tu me donnes un direct punch. » On ne peut pas se faire de scénario là-dessus.
Mais on connaît pas ça, Martin. Puis quand je parlais avec le service de police de la ville de Québec, quand j'ai commencé ma carrière en radio, je pense que c'était en 2006, tu sais, j'étais à Saint-Georges, puis je parlais avec les policiers de Saint-Georges aussi quand il arrivait des interactions où il y a une arme à feu qui était utilisée. Puis c'est toujours la même chose. Hein? Tu sais, dans les dernières années, je travaillais à Québec dans une autre station de radio, puis quand il y avait une intervention policière qui tournait mal, puis le policier devait faire usage de son arme, là, tu lis l'article, tu te rends compte que le gars, il avait juste un couteau. Puis il y a tout le temps des gens qui disaient « Ouais, mais pourquoi ils n'ont pas tiré sur une main ou pourquoi ils n'ont pas tiré dans une jambe? » C'est comme si on avait été éduqué par les Western Spaghetti puis que c'était facile pour un policier d'atteindre une cible en mouvement aussi rapidement que ça. Puis à un moment donné, je pense que c'est Bruno de Radio-Canada, je perds son nom de famille, mais ils se sont posé la question à Radio-Canada, pourquoi les policiers tirent pas dans une jambe, tirent pas dans un bras? Puis les policiers ont réussi, ils ont reproduit, OK? Ils ont donné un genre de fausse arme à Bruno, puis le policier jouait le rôle du méchant avec un couteau. Puis dans toutes les circonstances, le policier était capable de se rendre à Bruno avant même qu'il soit capable d'atteindre la cible.
Oui.
Fait que les policiers tirent dans le centre-masse, donc à peu près à la hauteur du plexus solaire, parce que c'est l'endroit où ils ont plus de chances de toucher la personne s'ils tirent, plus sur le stress, tu sais.
Ben oui. Ben, tu sais, la première chose que j'allais répondre à ça, tu y as répondu par ton exemple, c'est je vais commencer par te mettre en situation, tu me montreras ce que tu fais. Là, c'est la première affaire. Si tu t'atteins ta cible, là, je te donne une médaille. Les policiers sont équipés de fusils de 9 mm avec un coefficient balistique en bas de 180. Je veux dire, c'est avec un petit canon tout court. Tu sais, dans les armes de chasse, on essaie d'avoir des longs canons avec le bon twist dedans, puis on calcule la stabilité de notre boulet. Eux autres, ils ont un 9 mm avec lequel ils peuvent à peu près pas s'entraîner parce que les services de police ne leur donnent pas tant de pratique. Ils n'ont pas des habiletés incroyables au tir à la cible. C'est pas la volonté du policier, de l'individu comme tel. C'est le temps de pratique qui y est donné. Il ne maîtrise pas son arme comme il voudrait le maîtriser lui-même. Puis, il y a un tire-poids dans les mains. Il y a une chance sur deux d'atteindre sa cible. Fait que c'est sûr que le centre-masse, la plus grosse masse sur laquelle il est capable de tirer, c'est là qu'il va faire feu. On le voit souvent aussi dans des abattages de bêtes qui sont en liberté dans des territoires plus urbains. Il y a une vache sur le bord du chemin, il y a un ours, il y a un orignal, il y a un ci, il y a un ça. Puis là, on dit, hey, tabarouette, ça a-tu du bon sens? 14 coups de feu dans un cerf de Virginie, moi, ça me prend une balle. Ouais, mais Johnny, toi, t'es équipé avec une 300 Winchester Magnum avec un boulet qui est fait pour avoir une balistique terminale foudroyante. Le gars, il a un tire-poids dans les mains. Le pouvoir de pénétration de ces boulets-là, il est nul à chier. La balistique est nul à chier. Puis en plus, ce pauvre gars-là, sur qui on crie tout, l'individu qui est en dessous de l'uniforme, là, ben malheureusement, à cause de la façon dont c'est fait, ben son service de police n'y donne pas ou à peu près pas de temps de pratique. Tu veux qu'il fasse quoi, le dude? Il peut pas faire mieux que ça.
Il va essayer de faire son possible, mais moi, c'est ce qui m'avait surpris, c'est la reproduction d'une attaque au couteau. Le journaliste était armé, puis il était incapable d'arriver plus vite que le gars qui sortait le couteau puis qui réussissait à le poignarder. Mais c'est ça, hein, je pense que quand on était jeune, on s'est éduqué avec les fameux Western Spaghetti où le gars était en train de fumer une cigarette, puis le gars qui était comme le spécialiste de l'arme était capable d'éteindre la cigarette à un kilomètre.
Oui, ouais, c'est ça.
La réalité, c'est pas ça pantoute. Puis tu me fais penser à une histoire qui est arrivée à Lévis. Moi, je riais de cette histoire-là. Puis il y avait un vieux monsieur un peu fatigué avec une moustache qui faisait de la radio dans le temps. Puis qui se faisait toujours un plaisir de nous rappeler cette histoire-là. À un moment donné, il y avait une vache à Lévis qui menaçait d'embarquer sur l'autoroute 20.
Oui, oui, oui.
Et les policiers se sont mis à 6-7 pour descendre la vache.
Oui.
Ben la vache, ils ont tiré dessus plusieurs fois, puis ben, reparti sur le trot, là. Ils ont jamais réussi à tuer la vache. De un, ils savaient pas, il était où le cœur. Mais de deux, pour essayer de tuer une vache, la peau est épaisse, là.
Ils n'ont pas le calibre pour ça.
Et avec le gun, ça fonctionnait pas. Donc la vache est repartie au trot comme si c'était un lundi, là.
Non, ça prend les armes longues de service, puis ils n'ont pas tous nécessairement accès au moment où est-ce qu'ils voudraient l'avoir. Là, je parle de l'individu qui est en arrière du corps, là. Dispatch, je t'envoie à telle place, il y a une vache qui essaie d'embarquer sur l'autoroute. OK, tu peux-tu m'amener le gros gun? C'est Johnny qui l'a, puis il est en train de patrouiller à Saint-Héré dans le fin fond d'un rang. Fait qu'il s'en vient, ça sera pas long. Le gars fait avec ce qu'il peut, puis son calibre est vraiment nettement pas suffisant pour abattre des... C'est pas fait pour ça. La balle, le calibre est pas fait pour ça. Le boulet qu'ils utilisent n'est pas fait pour ça. Et la formation qu'ils leur donnent est totalement insuffisante. Il faut juste se rappeler là-dedans, gang, que c'est pas du ressort de l'officier, de l'agent de la paix qui est en dessous du... C'est les moyens desquels ils disposent. Puis tu as raison de parler du couteau puis du gun, etc., dans le sens où que généralement, l'assaillant va se rendre. Quand on donne des formations, je me trompe peut-être, mais tu connais un petit peu ça aussi, quand on donne des formations et on donne les techniques pour débarrasser un couteau ou se défaire d'une attaque armée, une des premières choses qu'on dit, c'est « tu vas manger un coup de couteau ». Rentre-toi là dans la tête, là, tu vas manger un coup de couteau. L'assaillant va se rendre jusqu'à toi. Ça, c'est dans 90% des cas vrais. Il y a un coup de couteau, puis après ça, il y a une autodéfense qui est possible. Dans les bêtes sauvages, c'est encore plus rough à calculer parce que là, tu n'as pas de scénario. Tu ne connais pas vraiment comment est-ce que... T'sais, si tu fais du combat le moindrement, tu sais à regarder l'autre danser qui est en train de crinquer sa hanche pour t'en soigner une, fait que tu es capable de te placer. Un grizzly ou un cougar, ça n'avertit pas. Mais sais-tu ce qu'ils font dans l'Ouest avec les gars qui rentrent là? Ils les obligent, sur certains territoires, si tu vas à la chasse au grizzly, tu es obligé d'être équipé d'un arme de poing avec un calibre minimum. Puis on va t'expliquer, avant que tu rentres sur le territoire, les officiels de la place vont t'expliquer de quelle façon, si tu te fais attaquer par un grizzly ou encore par un cougar, de quelle façon offrir ton bras, puis ton bras, là, il est perdu, là, mais qui a croqué là-dedans, il est perdu, pour que quand la tête du grizzly est engagée sur ton bras, que tu puisses placer l'arme de poing sous sa tête et vider le chargeur dedans pour t'en débarrasser. Ça, c'est ce qu'on donne comme formation sur certains territoires. Parce que ce sont des bêtes qui sont excessivement risquées à côtoyer. Ce sont des animaux sauvages. Mais là, attention, on parle de grizzly. C'est totalement différent de notre réalité ici au Québec avec l'ours noir, qui est un animal qui, ça y tente pas de te côtoyer. C'est aussi simple que ça. Ça ne lui tente pas de te côtoyer. Fait que c'est là où est-ce qu'on va dire aux gens, ben, ton entrée en forêt et ta planification de ta randonnée en forêt va dépendre de qu'est-ce que tu veux voir ou ne pas voir. Si tu ne veux pas voir des ours, ben, on va toujours conseiller aux plaisanciers, aux randonneurs de dire, ben, mettez des clochettes après votre sac, parlez entre vous autres, chante une chanson, amène ton petit haut-parleur Bluetooth, mets-le dans ton dos, puis fais-toi jouer de la musique, fais du bruit, annonce ta présence, t'auras pas de problème avec les animaux sauvages de la faune québécoise. On n'en a pas là, dans la gang là, ici là, qui fait comme un être humain, je vais aller le tuer. On n'a pas ça au Québec, point final. Maintenant, comme dans n'importe quelle strate de société, les hommes en font partie. Il y a toujours des individus totalement différents à ça. Ça peut arriver, puis on les voit passer dans les nouvelles à ce moment-là. Par exemple, une femelle orignale avec le ver des méninges qui est complètement crackpot, qui décide de partir à la course après des randonneurs, puis qui leur sac des coups de sabot sur la tête. C'est arrivé, ça va réarriver. On côtoie ces animaux-là, ce sont des animaux sauvages. Mais il y a toujours moyen de signifier notre présence pour amoindrir ou diminuer le risque de tomber face à face avec ces animaux-là. Puis de là, ben, il faut juste savoir comment réagir et se retirer progressivement. Puis ce que tu disais tantôt, c'est un peu ce qu'il faut faire quand on croise un ours ou on croise un orignal ici qui a le poil un petit peu doué sur le dos. T'es comme, oups, pas d'air, lui, là, je viens de le pogner en porte-à-faux. Là, il n'est pas trop, trop content, puis il se sent à risque. Parle avec une voix, un bon ton, mais pas agressif. Calme, puis retire-toi tranquillement, pas vite, puis va te promener plus loin, il va s'en aller de la minute qu'il se sentira plus coincé. Autrement que ça, des attaques proprement dites, dans la part de ces exceptions-là, on n'en vit pas au Québec, puis l'ours noir est très, très loin de son cousin européen qui est l'ours brun ou encore du grizzly dans l'Ouest canadien.
Mais est-ce que c'est vrai, Martin, qu'on doit comme se lever les bras le plus haut possible pour montrer à l'ours qu'on est plus grand puis plus haut que lui?
C'est une théorie.
En reculant,
mais...
ouais.
C'est une théorie, mais si l'ours est en affrontement, ça va dépendre de l'agissement de l'ours. Si ton ours est au sol, puis il n'est pas trop sûr de ce qui se passe, puis il est en train de se tasser en te regardant du coin de l'œil, oui, c'est une bonne idée. De dire, bon, on lève les bras, on prend une grosse voix, faut quand même, écoute, mon homme, prends ton bord, je vais prendre le mien, puis parle-lui en reculant. Mais si ton ours est debout, puis il est en train de claquer des dents, là... Parce qu'un ours, en passant, avant d'attaquer, ça, ouais. Ça claque les dents.
C'est le temps de sortir son speech de Rocky, genre « C'est moi, je peux changer, tout le monde peut changer! » Mais là,
écoute, il faut le surprendre. Là. Il faut qu'il y ait un gros bang, quelque chose. C'est pour ça que les bear bangers qui se vendent dans les centres, les magasins de chasse et de pêche,
ouais.
Le poivre de Cayenne, les bear bangers, c'est une détonation un peu comme un calibre 12, mais dans okay. Un petit engin, ça fait un gros bang. C'est fait pour sortir l'ours de sa bulle. Fait comme, hey, le surprendre pour qu'il passe à d'autres choses. Parce que ton ours, avant d'attaquer, pour ceux qui ont déjà observé des ours noirs, ils vont se lever face à face, puis c'est vraiment... Ça se met à claquer des dents, une affaire comme claquer de la gueule. Quand il est rendu là, ton ours, il va attaquer si tu n'interviens pas. Là, c'est le temps de le surprendre avec un gros bang, un gros son. Si tu as une grosse voix, c'est un gros « Hey! » pour le sortir de là, mais solide. Ben, il lève pas les bras dans les airs en avançant vers lui. C'est un consentement au combat rendu là.
Ouais. Mais je pense que les films nous ont beaucoup joué dans la tête. T'sais. Pour faire de la plongée sous-marine, on partage cette belle passion-là, oui. Toi et moi. Quand j'ai été dans le sud, je jasais avec des auditeurs, puis parce que c'était des auditeurs qui voyageaient avec nous autres pour aller faire de la plongée sous-marine, puis ils étaient stressés, ils avaient peur de rencontrer des requins. Puis ce que la dame mexicaine, l'instructeur, nous disait, c'est ben ça se peut qu'on en voit, mais il n'y a pas de stress avec les requins. Pour eux autres, là, on n'est pas de la bouffe, on n'est pas des ennemis. Ils vont pas... on va être simplement des objets de curiosité, puis ils vont partir tout simplement. Puis elle disait aussi qu'elle organisait des expéditions où les gars puis les filles qui faisaient de la plongée sous-marine se couchaient dans le fond de l'eau, puis les requins tournaient autour d'eux. Et là, je regardais la tête des auditeurs qui disaient « Hey Chris, nous autres, on veut pas embarquer là-dedans. Là. » Puis oui. Là, je leur disais « Mais c'est parce que c'est le film Jaws. » C'était tous des gens de ma génération, puis peut-être un peu plus vieux, le film Jaws nous a dit que les requins étaient tous dangereux, alors que c'est complètement faux. Les requins ne sont pas tous dangereux, tu sais. Ils peuvent voir des opportunités des fois sur le bord des plages, mais c'est parce qu'ils ont l'impression que tu es un poisson au travers des vagues, puis ils vont aller chercher une petite mordée, mais ils vont sacrer le camp, tu sais. S'ils t'ont pas mordu trop fort, tu vas t'en sortir. Mais si tu peux mourir au bout de ton sang. Mais dans le cas des ours, il y a un film qui était fait fin 90, si je ne me trompe pas, c'est 97. Le film, ça s'appelait The Edge, avec Anthony Hopkins puis Alec Baldwin. Les gars étaient dans le nord du Canada, de mémoire, et ils ont commencé à se rendre compte qu'ils se faisaient traquer par un Kodiak. Un okay. Ours Kodiak.
Oui, oui, oui.
Ce film-là, je ne sais pas si toi tu l'as vu, mais je veux dire, ça rentre un peu dans la tête comme Jaws nous a rentré dans la tête avec les requins. Tu dis, si, boire, t'es peu, là. C'est parce que l'ours, il commence à me traquer là, dans la forêt. Là. Et c'est un mangeur d'hommes, là.
Ouais, mais attends un peu, tu sais, je veux dire, on a des chiens dans la vie de tous les jours. Là. Il existe des dogs de Bordeaux et des matins de Naples, mais il existe aussi des chihuahuas. J'accorde pas le même niveau de danger aux deux espèces. C'est la même affaire, là. Là, on parle d'un Kodiak, on parle d'un grizzly, on parle d'ours brun en Europe versus notre beau petit ours noir ici, là. C'est des tempéraments même sur le plan hiérarchique, social entre eux autres, ils se battent aussi, mais c'est jamais aussi violent que ces grosses espèces-là. Puis sa peur de l'homme est présente dans le cas du Kodiak ou du Grizzly. À la limite, c'est une opportunité de marquer son territoire ou un snack. C'est pas le cas pour l'ours noir. L'ours noir, dans sa tête, on est son prédateur. Il n'y a aucun intérêt à tomber face à face avec un être humain. That's it, that's all. C'est aussi simple que ça. Alors, les films... écoute, tu parles de requins. Je ne me souviens pas du nom du film. Tu penses que c'est-tu des mégalodons, les requins qui volaient dans les airs, ils sortaient de l'eau. On a mis la barre haute dans les films au niveau animalier. Là. Mais d'un côté, on a mis la barre haute au niveau danger, mais d'un autre côté, on a aussi souvent créé des gros problèmes parce qu'on a démontré dans des films énormément de proximité entre l'homme et la bête sauvage.
Ouais.
Des histoires où est-ce que des enfants ou des vieillards tombaient dans une amitié incroyable et magique avec un ours brun ou Yogi ou quoi que ce soit. Ça a été un problème parce que ça a comme induit une genre de volonté à aller faire communion avec la nature, puis aller prendre le thé avec un ours ou un grizzly ou un wapiti. Puis c'est aussi, sinon, plus dangereux. Je dirais que j'aime quasiment mieux qu'on induise une certaine crainte envers les bêtes parce qu'il s'agit d'animaux sauvages. Puis en n'importe quel temps, même un écureuil, tu peux te ramasser des morsures assez sévères, là, puis des graphines assez sévères. Ça reste des animaux sauvages. J'aime mieux qu'on induise une crainte un peu plus grande, puis que les gens respectent ça, puis que le respect soit un petit peu la peur, puis se recule, puis qu'ils observent en retrait, qu'on induise le fait que, oui, l'ours peut être ton ami, il va venir manger des coréodates avec toi par le châssis, ça va être cute, il va juste ouvrir les rideaux puis prendre ce que tu lui donnes au bout des dents. Hein. Ça n'existe pas, hein. C'est encore plus dangereux.
Je viens d'apprendre que l'ours Kodiak, dans le film The Edge, son prénom c'était Bart. Bart the Bear.
Tu vois. Puis combien d'histoires on a vues dans l'épopée hollywoodienne de dompteurs d'animaux comme ça, le d'ours brun, puis etc., qui étaient domptés pour faire des répliques de films, qui se sont fait gravement blesser à un moment donné par ces animaux-là, parce que finalement, ils décident de jouer un petit peu plus rough. Tu sais, des fois, c'est « Ah, l'ours s'est reviré contre lui ». Non, il a juste voulu vraiment jouer, puis il l'a blessé, puis il n'y avait même pas d'intention. Là. C'est la nature sauvage, hein, c'est sauvage, c'est... Respectez-la.
Mais quel est l'animal le plus dangereux de la forêt au Québec? Est-ce que c'est le carcajou? On m'a souvent rapporté qu'effectivement, si tu pilais par malheur sur un carcajou, tu étais aussi bien d'y laisser ta botte parce que sinon, il allait manger ta jambe au complet.
Oui, le carcajou, c'est vraiment... C'est même une incompréhension dans le domaine, dans le sens parce que tous les animaux ont leur raison d'être dans la nature. Le carcajou est en train de s'éteindre parce qu'il s'entretue tellement c'est violent. C'est ça, là, c'est à ce point-là. Mais tu sais... Au Québec, le 90% des observations de carcajou au Québec, au bout de la ligne, s'avère être des pécans. Les gens pensent que c'est des carcajou, c'est pas des carcajou, c'est des pécans. Est-ce qu'un pécan va te faire face puis il va montrer les dents si tu as tiré une perdrix puis il a décidé que cette perdrix-là, t'es à lui? Oui. Est-ce que c'est dangereux comme un carcajou? Non. Est-ce qu'on l'affronte? Pas plus, parce que tu ne sais pas dans quoi il a mordu, tu ne sais pas quelle bactérie qu'il y a après les dents. Tu peux te ramasser. Écoute, il y a des gens qui se ramassent avec des pertes de bouts de membres parce qu'ils se font mordre par des chats. Là. Fait qu'imagine-toi te faire mordre par un pécan. Le carcajou serait probablement le plus dangereux en proportion avec sa grosseur. L'avantage, c'est qu'il est presque plus présent sur le territoire québécois. Moi, je te dirais l'animal qui est peut-être le moins redouté, qui cause le plus de dommages dans des histoires de chasse, entre autres de recherche de gibier, etc., bien par-delà l'ours noir, celui qui va affronter sans avoir peur, c'est souvent l'orignal, mais surtout la femelle orignale. Okay. La femelle orignale, là, quand elle a le poil douette sur le dos et qu'elle s'en vient vers toi, là, oublie jamais qu'une fois la papate allongée, là, elle a un 6 pieds de reach facilement. Puis si elle descend un sabot sur la caboche, là, c'est probablement une perte de connaissance sur le champ avec une commotion cérébrale sévère. Puis ça, c'est si elle ne décide pas de te piloter par après.
Parce ah oui?
Ah oui. Ah non, c'est pas l'ours que vous avez à craindre dans la forêt. J'ai envie de dire, c'est l'ensemble du reste de la nature, parce que même une rivière est à craindre en forêt, là, mais je craindrais plus une femelle orignale qu'un ours noir pris d'un coin. L'ours noir, là, il va chercher à sacrer son camp. La femelle, surtout si elle a des petits pas loin d'elle, là, ça se peut qu'elle lève les sabots, puis ça finira pas bien.
OK. Écoute, peut-être que c'est en raison de, du fameux maire de... C'était quoi la municipalité, là? La municipalité où il y avait des dindons sauvages qui s'en prenaient au...
Louisville.
Louisville. Le maire de la municipalité de Louisville qui a fait une méchante bonne publicité pour le dindon sauvage. C'était hallucinant, ce moment-là. Là. Je veux dire, un maire d'une ville qui dit sur les ondes de TVA, « Citoyens de Louisville, demain, pas de niaisage, batte de baseball, puis ça va finir là. » Je veux dire, tabarouette. Puis là, on avait l'impression que le dindon sauvage était rendu le nouveau môme bouché, mettons, le nouvel ennemi public numéro un. Il n'y en a pas tant que ça, des attaques de dindons sauvages. Là.
Ben non, pas en tout. Je veux dire, à la limite même, ce dindon-là, le dindon duquel on parlait, là, sur le long du char, là, est-ce que vraiment il était en attaque ou ben non, il était... seul, un peu apeuré, puis il a fait comme « des amis, je vais aller les voir ». Puis là, on interprète ça comme une attaque. Ça, on n'aura jamais le fond de l'histoire. Est-ce qu'un dindon, ça peut attaquer pour te tasser de son territoire? Oui, une oie blanche aussi, puis je te garantis que si tu te fais pincer le bout des doigts par une oie blanche, tu vas t'en souvenir longtemps en sacrement.
Ça pince, ouais.
Non, ça pince un moyen temps. Une canne, là, donc une femelle canard, va te tasser d'alentour de ses petits aussi en courant après toi. C'est parfaitement normal. Ils protègent leur territoire, ils protègent leur progéniture. Est-ce qu'une dinde attaque? Je vais te dire, ça se pousse, dans 99% des cas, ça se pousse, puis ça se pousse assez vite, merci. Est-ce qu'une fois coincé, ça va tout chercher pour sortir de là? Oui, comme un mulot, un écureuil ou un ours.
OK. Mais est-ce qu'on a modifié un peu les règles pour ce qui est de la chasse aux dindons sauvages? Ça va commencer bientôt. Tu me disais, il commence à avoir une bonne population de dindons sauvages. On va peut-être regarder dans certains secteurs où on pourrait pas augmenter la prise des dindons.
Oui, ça a été fait. Ça a été fait depuis. Okay. Depuis que la FDCP a décidé de réintégrer des dindons au Québec, je vais dire comme toi, ça l'a populé, ça a marché. Donc, je veux dire, c'est réussite sur la réimplantation. Là. Oui, on a augmenté le nombre à 2 dindons sauvages, dépendamment des secteurs, évidemment.
Ouais.
Allez tout le temps taper sur votre ami Google, là, règle chasse dindons sauvages Québec, ça va vous amener sur le site du ministère parce que ça dépend des zones. Donc là, il y a des zones dans lesquelles vous avez droit à 2 dindons sauvages. Évidemment, au printemps, c'est dindons avec barbe. Tout le temps. À l'automne, il y a une chasse aussi qu'on a rajoutée. Donc, on a droit à 2 dindons au printemps sur certaines zones. On a rajouté des zones à l'automne. Donc, il y a des nouvelles zones cette année où est-ce qu'on a le droit de chasser le dindon sauvage. Le Nouveau-Brunswick vient tout juste d'ouvrir aussi au tirage au sort les permis pour non-résidents pour augmenter le nombre de chasseurs qui viennent. D'ailleurs, on y va, nous autres, au retour de l'Afrique. On va faire un combo dindon et ours noir au Nouveau-Brunswick. On s'en va chasser là-bas, puis on va chasser ici aussi. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de permissions, de permissivité au niveau du nombre de dindons sauvages qui sont possibles de récolter. Maintenant, est-ce que tout le monde va réussir à récolter 2 dindons sauvages? Ça demeure, au contraire de ce que les gens peuvent en penser, parce qu'on se promène sur le bord de l'autoroute présentement, puis on voit des troupeaux de 25, 30, 40, 50 dindons sauvages. Mais c'est comme n'importe quel autre bobite. Le matin de la chasse, on dirait que les gardes de chasse les ont remisés.
Ah ouais, ils sont cachés. Ils ne sortent plus.
C'est pas la même affaire.
Ouais.
D'être embusqué sur le bord d'une terre agricole, là où est-ce que tu as, au préalable, la veille au soir, ce qu'on fait, c'est qu'on va avec les jumelles sur le long de la route, puis on regarde les dindons à tomber du soleil. Au tomber du soleil, on essaie de voir où est-ce qu'ils vont aller se percher. Parce que le dindon sauvage, il dort dans un arbre. Il va choisir un gros pin blanc, quelque chose de même qui est capable de le supporter. Puis là, on va le regarder monter dans l'arbre. Ça me dit, le lendemain matin, ça me dit où aller me placer. Je vais aller me placer à proximité de où le dindon va se dépercher le matin. De voir des dindons sur le bord du chemin quand tu te promènes en char, puis d'en faire venir un devant ta watch ou devant ta cache pour faire feu dessus, c'est deux paires de manches totalement différentes. C'est pas aussi facile que ça peut en paraître.
Ri, là. On a parlé, je pense, de cette capsule vidéo-là qu'un gars que je pense qu'on a en commun sur Facebook. Le gars, il est allé à la chasse au dindon sauvage. Il a rien vu pendant 3-4 jours. Il décide de revenir au bureau. Puis il est en train de jaser en disant « Bon, ma chasse au dindon sauvage, ça n'a pas bien été. J'en ai pas vu un. Il s'est tout caché. Les gardes-chasse les avaient toutes remisés. Blablabla, tu sais. » Et il sort revire. Puis en face de sa shop, il y avait un champ. Puis il y avait comme une cinquantaine de dindons sauvages qui étaient là. C'est comme si les dindons savaient... C'est Christian, je pense, son prénom. C'est comme si les dindons sauvages savaient qu'à cet endroit-là, ils pouvaient pas être chassés. Fait qu'il était en toute sécurité. Tandis que lui, ça faisait 3-4 jours qu'il était dans le bois pour en chasser un. C'est cruel parfois la chasse. Là.
Ah, ça peut l'être. Puis, tu sais, la chasse aux dindons sauvages, certains chasseurs vont se plaire à comparer ça à une chasse à un gros boc chevreuil. C'est rusé. À 1 000 de distance, c'est capable de différencier, par exemple, le bleu. La couleur bleue, c'est une couleur qui vont... Bien, les couleurs que sur la tête et le caroncule du dindon, là, le bleu, le rouge particulièrement, mais principalement le bleu, là, ils sont capables de le distinguer à 1 000 à l'œil. Ça a aussi une oreille très, très, très affinée. Fait que le moindre erreur va l'alerter, puis là, il va se lâcher un gros poc, un gros cri d'alarme, puis tu vas voir le champ se vider de dindon dans le temps de le dire. Fait que d'avoir... Comme dans les plus beaux films, le dindon qui part de 1 km à la course puis qui s'en vient directement dans tes faux dindons en avant puis de faire feu puis de récolter, c'est pas vrai partout. Il y a des places que c'est encore comme ça, mais disons là, comme ça, nos dindons, on les a éduqués. Maintenant, ils connaissent la game un peu. C'est un petit peu plus dur à récolter. Mais oui, pour répondre à ta question, on a augmenté les quantités maximales de dindons qui sont récoltables par un chasseur dans une année. Question de, justement, aller dans le sens des plans de gestion, donc de se servir des chasseurs comme outil de gestion, de régulation des cheptels animaliers pour pas qu'on se ramasse avec un problème de surabondance. Parce qu'évidemment, c'est une espèce qui est omnivore. Donc, dans un même milieu, ben un milieu a toujours une certaine capacité de soutien. Hein, quand tu as un poulet, tu peux nourrir 6 personnes. Si tu as 14 personnes, tu as un problème. Bien là, c'est le problème. C'est que si la dinde prend trop de place dans certains secteurs, bien, elle vient un peu empiéter sur les capacités de soutien de ces milieux-là pour les autres espèces qui sont en place. Donc, il y a d'autres espèces qui vont en souffrir. Donc, on va toujours aller normaliser les plans de gestion pour permettre aux chasseurs d'agir comme outil pour régulariser ces cheptels-là. Question que ça ne débalance pas toute la patente. Fait que petit peu par petit peu, là, tu le vois, ça augmente. Il y a des nouveaux secteurs qui sont ouverts.
Ça pourrait-tu être un maximum de 4 cette année, 4 dindons sauvages pour l'anneau complet?
Bien, tu sais, ce serait l'idéal, là, mais c'est là, cette année, c'est 2 dindons au printemps et 1 à l'automne pour certains
secteurs. Donc 3, OK.
Oui, c'est ça. Et c'est pas tous les secteurs. Hein, donc, allez vraiment voir sur la réglementation. Il y a un outil pour aller voir c'est quoi les zones de chasse. Donc, vous allez aller vraiment identifier la zone. Bon, moi, je chasse à Lavaltrie, par exemple. Je ne chasse pas là pendant tout. Mais allez voir sa carte. Lavaltrie, ça va vous donner un numéro de zone. Allez voir la réglementation qui est rattachée à ce numéro de zone-là. C'est important. C'est pas des réglementations qui sont provinciales. Elles sont attribuées par zone et c'est important. Ce serait plate de se ramasser avec un ticket ou de se traîner en cours pour braconnage parce qu'on n'a pas été voir la réglementation au départ.
Oui, puis c'est extrêmement sévère quand vous faites prendre pour braconnage. À ce qu'on m'a mentionné régulièrement grâce à des experts en chasse et pêche comme toi, Martin Bourgeon, on va faire une courte pause.
Oui.
Il nous reste quelques minutes au retour. Je rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Martin Bourget, qui est président du groupe Aventure Chasse-Pêche. MartinBourget.com, toutes ses patentes sont là. Puis, si vous voulez le retrouver, ben, ça va être plus facile. Sinon, on l'ajoute sur nos réseaux sociaux.
Yes.
On fait une... Ce soir, on a le plaisir d'être avec Martin Bourget, qui est président du groupe Aventure Chasse-Pêche, MartinBourget.com. On parlait du film The Edge tantôt avec Anthony Hopkins, puis c'est-tu Baldwin? C'est un des frères Baldwin aussi qui était dans ce film-là. Ça, je pense que je vais me le retaper. Je sais pas si je vais être capable de retrouver ça. C'est un film qui date quand même de plusieurs années. 1997, la production de ce film-là. Puis j'avais trouvé ça excellent, mais ça m'avait donné une fausse peur des ours en forêt. Des Kodiaks, on me dit qu'on peut pas rencontrer ça vraiment à Val-Bélair. Fait que je suis en sécurité, là.
Absolument. C'est pas des espèces qui sont endémiques de Val-Bélair. Hein. Sinon, tu te retrouverais tous dans le coin du Patate Plus.
Ouais, exact.
Ça fait longtemps qu'on les aurait vus. Non, mais c'est il y a des films comme ça qui ont frappé notre imaginaire. Imagine les mégalodons, ces histoires-là. Là, c'est trop. C'est exagéré, mais bon, ça fait des bons films au bout de la ligne. Des bons films. Puis si ça peut. Tu sais, je le disais avant la pause, je suis quand même content que ça mette une petite crainte dans la tête des gens parce que on joue pas avec la nature comme on le veut. That's it. Que ce soit un animal, une rivière, une forêt, c'est sûr que si tu portes un acte, il va avoir une conséquence en quelque part, puis ça peut être ta sécurité, puis la sécurité de ces bêtes-là, ou du milieu faunique environnant. Et c'est pas pour rien qu'il y a des lois et règlements là-dessus, touche pas à ça.
On parlait des dindons sauvages juste avant la pause, là maintenant on parle de la chasse à l'ours. Ça commence quand?
La chasse à l'ours commence le 15 mai dans la majorité des territoires. Bouge pas, je vais juste aller me contre-vérifier pour être sûr. Oui, 15 mai. 15 mai dans la très grande majorité des territoires. Là, c'est le 15 mai que ça ouvre pour la chasse printanière parce qu'il y a aussi une chasse automnale à l'ours. Là. Dépendamment des secteurs, là, il faut vérifier s'il y a de la chasse à l'automne chez vous. Ça se passe dans le coin de 31 août, 21 septembre, 28 septembre, 5 octobre, dépendamment des secteurs pour ce qui est de la chasse automnale. Mais là, printemps, c'est le 15 mai que ça start. Donc, évidemment, déjà au moment où est-ce qu'on se parle, les chasseurs sont pour la plupart, sont déjà setupés. D'autres sont en train de mettre ce qu'on appelle leur bait dans le bois, leur site appâté. C'est-à-dire que les chasseurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller installer soit un baril ou encore une pile de bois dans lequel ils vont mettre des substances, comme ils se vendent présentement des barres protéinées ou des barres granola, des batchs qui ont eu des défectuosités au niveau de la fabrication en usine. Les barres sont coupées trop courtes ou allons des affaires de même. Puis il y a des revendeurs qui revendent ça pour mettre dans les barils. Alors, on met ça, on met du pain déshydraté, on met de la moulée molassée, on met de la melasse là-dedans, de la graisse de bacon, des trucs comme ça. Puis l'ours, bien, puisqu'il sort de sa léthargie, il sort de son trou au printemps, hein, il est à moitié, dès qu'il va avoir perdu ce que ta co-animatrice n'aime pas parler.
Le bouchon muqueux.
Il va commencer à aller bouffer. Oui, il commence avant par des petits bouts de brindilles, des petits bouts de bourgeons, des petits bouts de feuilles pour avoir de la fibre pour évacuer. Mais après ça, il y a un besoin énergétique quand même assez grand. Fait qu'il va tomber là-dedans, dans ces fameux sites appâtés-là. Il va venir manger du gâteau. Dans le temps, le monde allait chez Vachon, dans Beauce, puis allait acheter les batchs défectueuses, puis il mettait ça dans les barils. Ou encore chez Weston, ils pognaient le pain, puis tu mets du sirop d'érable, la mauvaise batch de sirop d'érable, tu mets ça au travers de ça, puis les ours rentrent, ils vont venir bouffer. Pensez à des barils avec des trous dedans, fait que les ours sont obligés de les manipuler, puis avec leurs ongles, ils vont travailler au travers des trous pour aller chercher des petites grenottes de bouffe. Les plus gros ours vont défoncer le baril. T'arrives là, puis la moitié de l'ours est rentrée dans le baril, est en train de finir de manger le baril au complet. Ça peut être assez impressionnant.
C'est fort en sacrifice.
Ah, t'as même pas idée. Moi, j'ai vu sur une ZEC, c'est la ZEC Batican Nelson, être obligé de couler le fond des containers de poubelles, les containers des verts et les bleus, là, de couler du ciment dans le fond. Puis il y a une bonne épaisseur de ciment dans le fond pour se lever un matin puis voir au loin un ours sur deux pattes qui tenait le container à brasser puis qui continuait à aller dans le bois plus loin pour aller le vider puis manger. C'est fort comme ça, pas de bon sens. Ouais. Des vieilles portes de frigidaire, tu sais, les vieux frigidaires avec les grosses clanches dessus, là. Bon, bien, des gars dans le Nord qui ont ce genre de frigidaire-là sur leur galerie ou encore à l'intérieur du camp, avec des grosses planches, puis ils mettent des chaînes autour de ça. Pff, les ours, là, la grosse poignée, là, arrachée complètement, là, dérivetée d'après la porte, complètement. C'est fort. Ouais.
Hey, je veux que tu répondes à cette question-là. C'est une question que j'ai eue, je pense que c'est lors d'une de tes dernières chroniques qu'on avait faites dans Marceau le midi. Semblerait qu'il y a de moins en moins de bouchers qui s'occupent de la viande des chasseurs. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que c'est vrai?
Oui, puis plus particulièrement la viande d'ours. Le problème vient de... Il y a 2 ans de ça, la compagnie qui s'occupe de récupérer les ossements de chevreuil, de caribou, le caribou, on n'a plus le droit ici au Québec, là, mais chevreuil, orignal, ours, etc., a émis un avertissement comme de quoi, à cause de la trichinellose, qui est une bactérie qui peut se trouver chez l'ours, bien, il cessait de ramasser les restes d'ours. Fait que là, les bouchers sont ramassés avec un constat. Hein? On a 2 choix. On peut continuer à prendre les ours des chasseurs puis les débiter pour faire de la viande avec. Puis on va être obligé de disposer illégalement des ossements, soit aux poubelles ou les faire brûler ou quelque chose comme ça, ou on arrête simplement de prendre les ours. Pour certains bouchers, l'ours était assez important qu'en fermant le côté ours, ils ont, by the way, fermé tout le département boucherie d'animaux de venaison de chasse, littéralement. Si bien qu'aujourd'hui, il faut vraiment appeler vos bouchers avant de partir à la chasse à l'ours pour vous assurer que l'animal dans lequel vous en allez tirer, à qui vous en allez retirer la vie, il va y avoir quelqu'un pour le prendre et le débiter, rendu en ville. Parce qu'il y a des fortes chances que les bouchers avec lesquels vous étiez habitués de faire affaire ne fassent plus d'ours. Il y en a beaucoup qui ont arrêté de faire de l'ours. Même si la compagnie, grâce à la gang de la FDCP d'ailleurs, qui ont mis de la pression, ont été obligés de reprendre les ossements. Mais il y a tellement de protocoles en arrière de ça qu'il y a certains bouchers qui ont dit anyway, c'est rendu trop compliqué de disposer des restes d'ours. Nous autres, on ne veut plus en faire. Puis c'est triste parce qu'on a besoin de la chasse à l'ours au Québec, parce qu'on a besoin de faire la déprédation de l'ours noir dans certains territoires où est-ce qu'il est surabondant, puis qui va, par exemple, venir nuire à des populations qui sont en voie de disparition, comme le caribou forestier, ou encore dans le parc des Laurentides, puis dans Portneuf, bien, l'ours noir, bien, il va être sur les bébés orignaux, les bébés chevreuils, etc. On va tenter de régulariser le cheptel, autrement, on a un problème de prédation, de surprédation dans le secteur. Mais là, ça diminue énormément les chances d'envoyer des chasseurs pour aller prélever des ours, qui pourtant la viande est très, très bonne, mais parce qu'ils ont plus de bouchers ou ils ont presque plus de bouchers qui prennent l'ours. C'est une problématique. Parce que au bout de la ligne, je vais te le dire, là, je vais essayer de t'en amener là, cette année si on a le temps d'en faire, si on trouve quelqu'un pour le faire. Là. Du smoked meat de foufoune d'ours, là, il n'y a pas, à part le caribou, j'ai jamais goûté un meilleur smoked meat de ma vie que ça. Là. C'est le meilleur smoked meat qu'il n'y a pas au monde.
Mais je vais y goûter, mais avant, dis-moi pas que c'est un pêteux, OK?
Ben c'est les fesses. Les fesses, c'est pas l'O-ring.
Mais tu sais quoi? On va faire ça à Pascal, OK? On va dire que c'est des fesses d'ours, on va lui faire goûter, puis après ça, on dira « Ah, c'est vraiment le O-ring, la partie, juste pour entendre ce qu'elle aura à dire par la suite. »
Ouais, mais moi je pense qu'elle, elle peut être aussi maline qu'un Kodiak, fait que ça dérange pas. Moi, j'amène la viande, toi, tu y donnes.
D'accord, on va faire ça. Hey, Martin Bourget, t'es président d'Aventure Chasse-Pêche. Pour les gens qui veulent avoir accès à tes émissions de radio et de télé, on fait quoi?
Ben écoute, de partir de notre site web, évidemment, vous pouvez tout trouver sur la plateforme Aventure Chasse-Pêche. D'ailleurs, on annonce un grand déménagement. On sort totalement des médias sociaux pour s'en aller uniquement sur notre page web. On en a ras-le-bol de faire contrôler l'information qu'on donne. Donc, on réagit à l'inverse à la place de se battre contre les géants. On sort de là pour faire nos petites affaires. Donc, la plateforme web d'Aventure Chasse-Pêche, sinon tous les jeudis soirs, 21h, sur des ondes de Télémag. La radio dont tu parles, c'est Radio Crash. Allez la chercher en application sur vos Android et iPhone. Si simplement que ça. En live, on est en live jeudi cette semaine. By the way, jeudi cette semaine, on a un gros, gros concours. On fait tirer justement une arme de chasse au dindon sauvage, un Winchester SXP Longbeard édition camo dans le live. Ça, c'est jeudi soir à 19h sur nos pages et sur la radio aussi. Mais maintenant, on amène les gens à écouter le live le plus possible sur notre page web. Vous rentrez sur la page Aventure Chasse-Pêche, cliquez sur l'onglet live. Jeudi soir à 19h, vous allez avoir le live, puis il y a une zone de commentaires, il y a une zone de chat que vous pouvez commenter directement, comme un live Facebook, mais sur notre site web.
On se reparle jeudi, mon ami.
Yes!
Merci beaucoup. Cool. On se laisse là-dessus. Passez une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1. On aura le plaisir de se reparler demain, 11h, pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye-bye.
La chronique Chasse-Pêche avec Marceau.